C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Dans une lettre publiée à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, Francis Dupuis-Derry, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, et 94 autres personnes dénoncent le sexisme, le masculinisme et l'homophobie et la transphobie qui sont en hausse dans les écoles primaires et secondaires du Québec. C'est aussi la conclusion d'un rapport de recherche marquant réalisé en partenariat avec la Fédération autonome de l'enseignement qu'a préparé Francis Dupuis-Derry. Et on le reçoit aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui, Francis.
Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir.
Rapidement, comment cette étude a-t-elle été effectuée? En fait, c'était quoi sa méthodologie?
Oui, donc c'est une recherche, comme tu viens de le mentionner, en partenariat. Donc en fait, il y a toute une structure à l'Université du Québec à Montréal, puis au fédéral aussi au niveau des subventions pour faire des recherches avec la société civile. Donc ça peut être soit les syndicats, groupes de femmes, groupes communautaires, LGBTQI+, autochtones, bon bref. Là, c'était avec la Fédération autonome de l'enseignement. Et donc on s'est assis ensemble pour voir comment on pouvait le mieux possible essayer de comprendre, de documenter, d'analyser des situations où des élèves, c'était principalement ça la question, là, les élèves qui expriment ou qui agissent de manière à traduire du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie. Et donc, on a décidé d'y aller par ce qu'on appelle en anglais des focus groups, donc oui, des entretiens de groupe. Et puis, on s'est déplacé dans différentes régions où la FAE a des antennes. Et c'était donc sur une base volontaire, mais on annonçait, on disait « Venez discuter pendant l'heure du midi, pendant une heure et demie, deux heures, avec d'autres collègues de différentes écoles » de la thématique de sexisme, homophobie, transphobie. Donc, les enseignants-enseignantes qui venaient avaient évidemment des expériences à nous partager. C'était ça l'objectif et la méthode.
Wow. Et qu'est-ce qu'on a découvert?
Bien, en fait, on a découvert et on a confirmé.
Les deux,
c'est les deux choses. Donc, je veux juste préciser, là, parce que c'est important pour moi, là, moi, ça fait des années que je travaille sur l'antiféminisme, mais homophobie et transphobie, même si c'est connexe d'une certaine manière, il y a vraiment des collègues au Québec, puis je pense que c'est important de les nommer, là, qui travaillent là-dessus depuis vraiment longtemps à l'université, évidemment des groupes, ouais, des associations aussi, là, évidemment. Lynn Chamberlain, qui est une pionnière, Martin Blais, Gabriel Richard, bon. Et donc, ces collègues ont déjà fait des enquêtes, soit des enquêtes sur le gris, entre autres. Oui. Hein, on le sait, là, il y a eu une enquête très importante qui a été menée là, sur les perceptions et les opinions des élèves. Moi, c'était vraiment sur la traduction dans la réalité de ces opinions-là péjoratives envers les femmes, envers les membres de la diversité sexuelle et de genre. Et donc, en fait, ce qu'on a documenté, c'est des attaques verbales envers les enseignants-enseignantes, assez troublantes pour moi qui est enseignant, qui est professeur, je n'aimerais pas ça être à leur place, et des insultes, des mépris, de la négation de ce qu'elles enseignent. Et après, ben, évidemment, toute une palette, malheureusement, là, d'insultes, menaces, intimidations envers surtout les élèves de la diversité.
Sans vouloir trop aller là-dedans, parce que je pense que les gens en entendent assez, mais juste, oui, quelques exemples de ce que les enseignants-enseignantes reçoivent comme commentaires.
Oui, alors c'est beaucoup les enseignantes femmes qui peuvent se dire féministes ou qui vont prendre l'occasion, par exemple, de la journée du 8 mars pour parler un peu des droits des femmes ou dans les cours sur la citoyenneté ou les cours d'histoire. Mais aussi, évidemment, il y a des enseignants-enseignantes qui ont fait leur coming out à l'école. Ou que les élèves pensent qu'ils sont des homosexuels, gays, lesbiennes ou non-binaires. Et donc là, pour les femmes, ils vont leur dire « Votre place n'est pas à l'école, votre place n'est pas d'avoir un emploi, ce serait de faire des bébés et d'être à la maison. C'est normal que les femmes soient payées moins que les hommes parce que les hommes ont des emplois plus prestigieux et importants. C'est correct de battre sa conjointe dans des couples hétérosexuels parce que de toute façon, les femmes aiment tellement l'argent que si vous êtes riche, elles vont rester avec vous. » Et puis, au niveau de l'homophobie, la biphobie aussi, transphobie, là, il va y avoir des propos qui sont soit sur les médias sociaux, soit écrits en marge dans les travaux ou dit dans l'école que... Puis là, ça peut être très violent, ça peut être... les élèves disent « Moi, je veux que les gays meurent ou que les trans meurent ou les trans n'existent pas de toute façon. » Bon, bref, ce genre de propos vraiment décourageants.
C'est violent. C'est violent.
Et je précise, là, parce que c'est important, c'est souvent dit en classe. Donc, ça veut dire que les autres élèves sont aussi témoins de ça. Ils reçoivent cette violence-là, surtout s'ils sont concernés. Évidemment, on peut imaginer l'effet tout à fait dévastateur, en fait.
Certains des critiques estiment que l'étude politise à l'extrême ce qui serait un comportement qu'on dit adolescent. « Boys will be boys ». Qu'est-ce qu'on répond à ça?
On répond que Oui, effectivement. Moi, je suis vieux maintenant. J'approche de la soixantaine. Et dans les années 70-80, quand moi, j'étais à l'école, évidemment, il y avait des propos homophobes, transphobes moins, évidemment, mais homophobes, on connaît les épithètes, les mots péjoratifs souvent pour se parler entre gars, hein, d'ailleurs. Mais en fait, ce qui est documenté, peut-être moins par mon étude, mais par d'autres études comme celle du Gris, des études de Martin Blais aussi qui ont travaillé sur ces questions-là, c'est un aspect plus décomplexé aujourd'hui qu'avant, quand même. Mm-hmm. Ça, c'est constaté par plusieurs enseignants enseignantes. Une aggravation, disons, un développement de plus en plus grand d'une masse de jeunes garçons, c'est surtout les garçons, qui sont de plus en plus conservateurs et réfractaires à la diversité et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ça a toujours existé, si on peut dire ça comme ça, mais ça semble plus problématique et plus explosif, si je peux utiliser ce terme-là, aujourd'hui dans nos écoles, et donc plus problématique.
Je vais faire un commentaire personnel, mais pour quelqu'un qui a subi ce genre d'intimidation, oui, quand il était jeune, le fait que ça soit boys will be boys, puis c'est comme ça que c'est, ça ne rend pas la chose plus facile.
Ben
à
non,
vivre,
évidemment.
Et c'est vraiment épouvantable vivre ça. Je ferme la parenthèse.
Puis moi, en fait, j'utilise un terme qui est très précis quand on parle de minorité. Pour moi, ça relève de la persécution. On dit intimidation.
Oui.
Mais l'intimidation, évidemment, il peut y avoir des intimidations, en guillemets, pas random, c'est pas le bon terme, là, mais là, quand vous êtes intimidé en raison, par exemple, de votre identité religieuse ou de votre identité de genre sexuel ou de votre genre, ben, c'est de la persécution. C'est quelque chose qui a un sens, la persécution, et c'est ça que moi, je vois.
Ben, c'est peut-être un mot qu'on va devoir utiliser ou mettre plus dans notre vocabulaire quand on parle de ces sujets-là. Dans l'enquête, on identifie le genre masculin, on vient de le dire, comme étant la catégorie la plus problématique. On pointe du doigt des sous-groupes précis, joueurs de hockey, par exemple. Pourquoi?
Pourquoi on pointe ces...
pourquoi ça semble venir de là plus
pourquoi
que...
ça semble... Alors, je reviens aux études, là, d'autres études de victimisation, mais aussi au niveau des préjugés et des préjudices, qui ont montré qu'il peut y avoir aussi des filles dans nos écoles qui sont homophobes et transphobes, oui, même misogynes, hein, on appelle, oui, ça la misogynie intégrée entre elles, mais c'est quand c'est le temps de l'exprimer publiquement et de, disons, d'affronter son enseignante ou de persécuter ses camarades, là, effectivement, mon enquête, ce qu'elle révèle, c'est que c'est presque toujours des garçons. Les filles peuvent être complices d'une certaine manière, mais c'est presque toujours les garçons. Et les garçons, en faisant ça, on a l'impression qu'ils viennent affirmer d'une certaine manière, de façon fière, une sorte de masculinité hétérosexuelle.
Ouais.
Et je suis pas le seul à le dire, hein, c'est un phénomène bien connu. Il n'y a pas de meilleure manière pour un jeune hétérosexuel de prouver qu'il est hétérosexuel qu'il est de malmener un jeune avec des propos homophobes. Ça veut dire, ben moi, je suis hétéro puisque je suis en train de faire preuve d'homophobie. Il y a un peu la même chose avec la maltraitance envers les filles. Il y a des garçons qui pensent qu'être un vrai gars, c'est d'être dominant envers les femmes aussi. Et donc, en fait, quand ils font ça, les garçons, ben ces garçons-là, pas tous les garçons, évidemment, pas tous les garçons hétéros, mais ces garçons hétéros, ils sont dans une dynamique d'affirmation de soi. Ils pensent qu'ils vont être plus populaires, plus respectés par leur père, et c'est d'autant plus décourageant.
On dit qu'il y a comme une recrudescence de ce genre de comportement, puis on pointe du doigt des adeptes de l'influenceur états-unien Andrew Tate. Comment on explique l'immense pouvoir d'attraction de ces figures de la manosphère sur les adolescents québécois?
Ben oui, parce que c'est un anglophone en plus.
Ouais.
Y en a d'autres, hein, en France. Y en a, pour les personnes qui suivent un peu ce qui se passe en France, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup, beaucoup plus qu'au Québec. Mais oui, Andrew Tate traverse la barrière linguistique et vient rejoindre les jeunes francophones dans nos écoles, les écoles publiques. Andrew Tate est tellement influent qu'il y a eu plusieurs sondages et enquêtes qui ont été menées dans les dernières années. Donc, c'est pas juste moi qui a observé ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'une grande majorité de garçons, par curiosité, sont allés voir de son matériel. Ça ne veut pas dire, si vous avez un garçon autour de vous qui consulte du Andrew Tate, qu'il est automatiquement un adepte. Hein. Mm. Il y en a même qui le trouvent ridicule et qui en font des memes pour le ridiculiser. Mais oui, c'est parce que lui, il offre un combo magnifique pour ces jeunes garçons. Il leur promet de devenir millionnaire, alors qu'évidemment, c'est lui qui devient millionnaire comme ça, mais il leur promet de faire de l'argent facilement, d'avoir des voitures de luxe, jet privé, filles en bikini, armes à feu et de la musculation et de la sexualité hétérosexuelle presque à volonté. Donc, vous voyez un peu le genre d'arnaque qu'il propose. Et à travers tout ça, il y a des commentaires extrêmement brutaux envers les minorités, envers les femmes. Et je pense qu'il faut le souligner, là, il y a une cinquantaine de plaintes pour violences sexuelles qui sont déposées contre lui devant les tribunaux en Roumanie, en Grande-Bretagne et, si je ne me trompe pas, aux États-Unis.
Tout un personnage. Bon, on le sait, dans notre société, il y a beaucoup de débats là-dessus. Quels sont les facteurs religieux ou culturels, s'il y en a? Est-ce que ça joue dans cette situation-là?
Oui, alors là, comme on a dit tout à l'heure, dans mon enquête, et on voit que les expressions de ce que j'appelle les attaques, c'est surtout le fait de garçons hétéros, mais là-dedans, on a identifié d'autres sous-catégories. Et donc, évidemment, au Québec, on ne pouvait pas, quand on a réuni des enseignants-enseignantes autour d'une table pour discuter de ça, on ne pouvait pas éviter la délicate question de l'islam. Mais on le sait que depuis une vingtaine d'années, l'islam est brandi là, comme la source de tous les problèmes
le
d'intolérance.
Bon ouais.
Exactement.
Ouais.
C'est, et donc, en fait, il y a des enseignants-enseignantes qui sont dans les écoles où il y a beaucoup d'élèves musulmans qui disent « ben moi, j'ai des, pas les, mais j'ai des élèves musulmans qui font référence à la religion pour te justifier des propos sexistes ou homophobes, par exemple. » Donc, ça existe. J'ai des enseignants aussi qui m'ont dit, entre élèves musulmans, ça s'obstine sur leur interprétation de l'islam. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur ces interprétations, disons, plus intolérantes. Mm-hmm. Hein. Dans chaque religion, il y a des interprétations plus ou moins tolérantes. On sait, par exemple, dans les branches protestantes, il y a beaucoup d'acceptation, par exemple, de la diversité de genre et sexuelle. C'est beaucoup moins le cas chez les catholiques. Donc, ça, c'est des questions d'interprétation. Je ne suis pas théologien. Mais ce qu'on a vu en se déplaçant dans différentes régions et en mettant autour de la table des enseignants-enseignantes qui étaient dans différentes écoles, c'est qu'il y a eu des dialogues entre les enseignants qui disaient « Ben moi, ce que tu remarques dans ton école et que tu associes à des élèves musulmans, moi, je vis la même chose. » Mais ce sont des élèves qui ne sont pas musulmans, qui sont probablement athées, on va les appeler des blancs francophones, mais qui sont tout aussi sexistes ou homophobes, sauf évidemment pas en référence avec la religion, mais en référence avec des pseudo-théories biologiques sur les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes depuis la nuit des temps, l'âge des cavernes et des choses comme ça.
J'aimerais terminer, là, donc ce rapport a été rendu public. Qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce que les gouvernements ou qu'est-ce que, en fait, les profs peuvent faire avec ça? Il nous reste à peu près une minute, là.
Oui, bien, à la fin du document qu'on peut trouver en ligne, là, il y a une série de suggestions de bonnes pratiques. Et puis, il y a aussi un livre, là, L'école champ de bataille, qui va sortir aux éditions Lux à la fin de l'été. Où en fait, je m'inspire de cette recherche-là, je reprends des éléments, mais j'élargis aussi la perspective. Et là aussi, en conclusion, on présente des bonnes pratiques. Donc ça se trouve, si vous cherchez bonnes pratiques, oui. Enseignement inclusif, par exemple, ou diversité, ou non-sexiste sur le web, vous allez trouver beaucoup de documents produits par les syndicats, par les associations LGBTQI+, même des fois par les gouvernements, par les syndicats.
Alors, on va lire ce livre, on va l'attendre, on va le lire. On va certainement te réinviter, Francis Dupuy-Déry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'était vraiment gentil de me recevoir. Merci.